Nous sommes plus nobles. La fidélité, la générosité, la pudeur de la bonne réputation, ces trois choses réunies en un seul sentiment, c'est ce que nous appelons noble, distingué. Et par là, nous dépassons les Grecs. À aucun prix, nous ne voudrions y renoncer, sous prétexte que les objets anciens de ces vertus sont tombés dans l'estime, et cela avec raison. Mais nous voudrions substituer avec précaution des objets nouveaux à cet héritage, le plus précieux de tous. Pour comprendre que les sentiments des Grecs les plus nobles au milieu de notre noblesse toujours chevaleresque et féodale devraient passer pour médiocres et à peine convenables, il faut se souvenir de ces paroles de consolation qui sortent de la bouche d'Ulysse dans les situations les plus ignominieuses. Supporte cela, cher cœur, tu en as supporté bien d'autres plus détestables encore. On peut mettre en parallèle, comme mise en pratique du modèle mythique, l'histoire de cet officier athénien qui, devant l'état-major tout entier, menacé de la canne par un autre officier, secoua la honte avec ses paroles « Bats-moi, mais écoute-moi aussi ». C'est ce que fit Thémistocle, ce très habile Ulysse de la période classique, qui était bien l'homme à adresser à son cher cœur dans ce moment ignominieux ses vers de consolation et de détresse. Les Grecs étaient bien loin de prendre à la légère la vie et la mort à cause d'un outrage, comme nous faisons sous l'influence d'un esprit d'aventure, chevaleresque et héréditaire, et d'un certain besoin de sacrifice. Bien loin aussi de chercher des occasions où l'on pouvait risquer honorablement la vie et la mort, comme dans les duels. Ou bien d'estimer la conservation d'un nom sans tache, honneur plus que le mauvais renom, quand celui-ci est compatible avec la gloire et le sentiment de puissance. Ou encore d'être fidèle aux préjugés et aux articles de foi d'une caste, lorsqu'il pourrait empêcher la venue d'un tyran. Car ceci est le secret peu noble de tout bon aristocrate grec. Une profonde jalousie lui fait traiter au pied de l'égalité chacun des membres de sa caste. Mais il est prêt à chaque instant à fondre comme un tigre sur sa proie, le despotisme. Que lui importe alors le mensonge, le crime, la trahison, la perte volontaire de sa ville natale? La justice était extrêmement difficile aux yeux de cette espèce d'homme. Elle passait presque pour quelque chose d'incroyable. Le juste, ce mot sonnait aux oreilles des Grecs comme le saint aux oreilles des chrétiens. Mais lorsque Socrate se hasardait à dire « L'homme vertueux est le plus heureux », on n'en croyait pas ses oreilles. On pensait avoir entendu quelque chose de fou, car en voyant l'image de l'homme le plus heureux, chaque citoyen d'extraction noble songeait au plus complet manque d'égard, au diabolisme du tyran qui sacrifiait tout et tous à son orgueil et à son plaisir. Parmi les hommes dont l'imagination s'agitait en secret à la poursuite sauvage d'un pareil bonheur, la vénération de l'État ne pouvait pas être implantée assez profondément. Mais je veux dire que pour les hommes dont le désir de puissance n'est plus aussi aveugle que celui de ces nobles Grecs, cette idolâtrie de la conception de l'État, au moyen de quoi ce désir fut jadis tenu en bride, n'est plus aussi nécessaire. Supporter la pauvreté. La grande supériorité de l'origine noble, c'est qu'elle permet de supporter mieux la pauvreté. Avenir de la noblesse. L'attitude du monde aristocratique exprime que, dans tous ses membres, le sentiment de la puissance joue sans cesse son jeu charmant. C'est ainsi que l'individu demeure noble, qu'il soit homme ou femme, ne se laisse pas aller à des gestes d'abandon. Il évite de se mettre à son aise devant tout le monde, par exemple de s'adosser en chemin de fer au coussin du wagon. Il ne semble pas se fatiguer de rester sur pied pendant des heures à la cour. Il installe sa maison, non selon son agrément, mais pour qu'elle produise l'impression de quelque chose de vaste et d'imposant, comme si elle devait servir de séjour à des êtres plus grands, qui y vivent plus longtemps. Il répond à un discours provoquant par de la retenue, avec un esprit clair, non comme s'il était scandalisé, anéanti, honteux, hors d'haleine à la façon des plébéiens. Tout comme il sait garder l'apparence d'une force physique supérieure toujours présente, il désire aussi maintenir par une sécurité continuelle et beaucoup d'aménité, même dans les situations les plus pénibles, l'impression que son âme et son esprit sont à la hauteur des dangers et des surprises. Une culture noble peut ressembler, pour ce qui en est dans la passion, soit à un cavalier qui éprouve du plaisir à faire marcher une bête ardente et fière au pas espagnol, que l'on se représente l'époque de Louis XIV, soit encore à un cavalier qui sent que sa monture s'élance sous lui comme une force de la nature, et qu'ils ne sont pas loin, tous deux, de perdre la tête, mais qu'ils se redressent avec fierté, jouissant de leur allure. Dans les deux cas, la culture noble respire la puissance, Et si très souvent, dans ses mœurs, elle n'exige que l'apparence du sentiment de puissance, le véritable sentiment de la supériorité grandit pourtant sans cesse par l'impression que ce jeu fait sur ceux qui ne sont point nobles et par le spectacle de cette impression. Cet incontestable bonheur de la culture noble qui s'édifie sur le sentiment de la supériorité commence maintenant à monter à un degré supérieur encore parce que, grâce à tous les esprits libres, il est dès lors permis, et il n'est plus déshonorant, de pénétrer dans l'ordre de la connaissance pour y chercher des consécrations plus intellectuelles, y apprendre une courtoisie supérieure, permis de regarder vers cet idéal de la sagesse victorieuse que nulle époque ne put encore dresser devant elle, avec une si bonne conscience que l'époque qui veut s'ouvrir. Et en fin de compte, de quoi s'occuperait dès lors la noblesse s'il apparaît de jour en jour plus clairement qu'il est indécent de s'occuper de politique ?